Hier, c'était l'enregistrement de Processus. On va en parler avec un des trois joueurs du podcast, Marco D'Amico. Salut Marco.
Salut Marco.
Comment ça va les boys?
Ça va bien toi?
Très bien, merci.
Marco, je vais pas te prendre pied plat, mais il y a une histoire qui vient de tomber quand Anthony m'a appris durant la pause. C'est Mickaël Lalancette qui nous apprend ça via Le Soleil. Arseniy Radkov a des problèmes de passeport et il doit retourner en Biélorussie.
Oui, exact. Il s'en va là-bas parce que c'est ça, des problèmes de passeport. Donc, il a dû retourner dans son pays. Puisque selon ce que Mickaël nous apprend dans son texte sur Le Soleil, c'est que l'Armada, pour qui il doit garder les buts cette année, une équipe de premier plan qui commence sa saison en fin de semaine, ben on craint que là-bas, on le force à faire son service militaire. Et ça, si ça arrive, ben on parle d'un processus de plusieurs mois. Il pourrait s'absenter pour la balance de la saison. Souhaitons que ce ne soit pas le cas, parce que Radkov obtient une belle opportunité de venir jouer un an à Boisbriand et puis par la suite aller jouer collégial américain. Il est commis à l'Université du Massachusetts pour l'année prochaine. Donc, à suivre en espérant que le jeune homme puisse revenir.
Évidemment, ce sera à suivre, mais Marco, ce serait pas une bonne nouvelle ça, pour l'espoir de troisième tour du Canadien lors du dernier enquête.
Non, c'est certain que tu veux qu'il joue dans une ligue, disons, compétitive, puis je pense pas qu'il va trouver ça nécessairement en Biélorussie. C'est malheureux avec ce passeport-ci et avec le service militaire obligatoire. On a vu la même chose avec Ivan Demidov rester à Montréal cet été parce qu'il voulait vraiment éviter ce problème-là. C'est d'ailleurs pourquoi on a seulement annoncé la signature de son contrat pendant qu'il était dans le processus des douanes en Russie, parce que ça peut causer des problèmes, ça peut causer un goût amer avec certaines personnes, disons, haut placées. Et donc, on veut pas vraiment voir ça pour un jeune. Malheureusement, il est forcé de retourner. Tu le dis, c'est une couple de mois, des fois, c'est même un an. Donc, ouais. C'est un dur coup pour l'Armada, vraiment. Mais j'espère que au moins voir si le Canadien pourrait aider dans ce domaine-là aussi.
Ouais, on espère que tout sera placé. Pour l'instant, on est encore au terme spéculatif. Tu parlais de Demidov. J'ai hâte de t'entendre, Marco. Moi, j'ai de grandes attentes pour lui. Il y a bien des gens qui le voient commencer sur le premier trio, d'autres sur le deuxième. Premier avantage numérique, deuxième. C'est quoi l'utilisation, selon toi, que Martin Saint-Louis va faire d'Ivan Demidov cette année?
Ouais, mais si on se fie à la façon qu'il a apporté certains rôles jeunes dans ce club-là, tu sais, Slavkovski, ça a commencé très slow, on l'a mis sur le quatrième trio, mais on a vu avec Lane Hudson déjà, première saison, top 4 dès le début, puis après une dizaine de games, il jouait 25 minutes par match. Donc, c'est tout dépend du talent, tout dépend de comment le joueur s'adapte, mais il a eu le bénéfice de jouer dans les séries l'année passée, donc je m'attends au moins au deuxième trio, juste pour offrir disons, une deuxième vague d'offensive pour cette équipe, parce que vraiment, quand tu te prépares pour jouer pour le Canadien de Montréal, c'est pour contrer le premier trio. Donc, en ayant un deuxième qui est piloté vraiment par Demidov, même s'il joue à l'aile, ça serait intéressant. Et ensuite, on parle de l'avantage numérique. Ben écoute, pour moi, ce serait idéal de retourner à la recette de l'année passée, à la fin des séries, le fameux diamant que l'avait le Canadien de Montréal avec Demidov à la gauche, excuse-moi, à la droite, et Caulfield à la gauche avec Hudson à la pointe, Nick Suzuki dans le milieu puis Slavkovski devant le filet. Je pense que ça serait vraiment un bon une bonne façon de faire fonctionner ces cinq là et je pense que de tous les espoirs tous les rookies qui vont commencer cette année, je pense qu'en termes de recrues, c'est Demidov qui risque d'avoir la meilleure opportunité en termes de jeu, en temps de jeu et qualité de temps de jeu. Donc je pense qu'il va prendre avantage de ça.
Ben, ça va être à gagner au camp d'entraînement, Marco. C'est comme à toutes les années. Là. S'il fait le job, puis moi, je pense qu'il va faire le job, il est excellent. Il faut pas qu'il donne le choix à la direction. Faut pas qu'il donne le choix à la direction, c'est tout. Puis quand il y a une opportunité, peut-être qu'on va préférer peut-être liner en début de saison parce qu'il était là l'année passée puis il a marqué des buts, mais en même temps, il faut qu'il saisisse ses occasions quand il y a boxe à la glace. Faire le job, puis éventuellement, ben, on va faire un petit peu ce qu'on a fait avec Hudson l'année passée. C'est Matheson, l'année passée, il a commencé sur le power play parce qu'il avait eu une très, très bonne saison précédente, puis on y voit que le vétéran, tu sais, on veut pas fripper personne. C'est exactement ce qui s'est produit. C'est la même affaire.
Moi, j'ai hâte de voir parce que, évidemment, il y a des statuts différents. Je comprends que les situations sont pas identiques, mais si je regarde un gars comme Kirill Kaprizov, son contrat fait jaser. Connor McDavid, son contrat fait jaser. Quinn Hughes, même s'il n'est pas sur le point de re-signer, ça va faire jaser. Un gars comme Lane Hudson à Montréal, qui n'a pas signé de prolongation de contrat, penses-tu, Marco, que ça pourrait être une distraction pour lui, une distraction pour l'équipe, le fait que plusieurs s'attendaient à le voir paraffer une entente de 8 ans cet été, et là, le camp commence, et c'est pas encore réglé?
Oui, je dirais pas que ça serait une distraction pour le jeune, mais disons qu'il voulait ce contrat-là signer avant le début de la saison. Et c'est encore l'objectif des deux clans, c'est d'en venir à une entente, mais tout le monde regarde le marché autour d'eux, puis tout le monde veut voir qui va cligner des yeux en premier. C'est un peu la même situation avec le dossier Kaprizov, refusé 16 millions parce qu'il veut voir qu'est-ce que Connor McDavid va faire. Si Connor McDavid signe pour 18 millions, puis t'as ton proprio qui a dit on va te faire le joueur le mieux payé de l'année, c'est facile. Tu pognes le 18 millions, tu dis donne-moi ça. Mais c'est un peu la même chose avec Hudson. On veut voir qu'est-ce qui va se passer avec Luke Hughes, qui lui doit absolument signer avant le début de la saison pour jouer cette saison. Ça travaille fort de ce côté-là, du côté de New Jersey, selon ce que je me fais dire. Donc, on devrait avoir un dénouement dans ce contexte-là assez tôt, dans la prochaine semaine, je dirais. Et ensuite, ça va faire en sorte que les roues vont tourner un peu plus rapidement dans le dossier de Lane Hudson et on verra qu'est-ce que ça donne. Mais je sais que les deux clans aimeraient avoir un contrat de 8 ans signé avant le début, disons, de la saison.
Fait qu'on peut déjà régler... Ça sera pas nécessairement un contre-pont dans le cas de Lane Hudson. Les deux clans, autant le Canadien que l'agent de Lane Hudson, on espère s'entendre à long terme.
Je dirais Lane Hudson, la personne, et le Canadien aimerait 8 ans. Okay. C'est la job de l'agent de dire « Wow, attends une seconde, peut-être 5 ans, peut-être 6 ans, laissons voir les options. » Et écoute, je pense que c'est une bonne chose de d'éduquer le joueur pour dire « Écoute, 8 ans, c'est pas toujours nécessairement la meilleure chose. » Je veux pas que tu t'arrives ici dans 4 ans puis tu me dis, je suis pas content avec mon contrat, je gagne juste 8,7 millions puis l'autre, il va gagner genre 12. C'est ce genre de goût amer-là que tu veux pas donner à ton client puis c'est exactement ça qu'on veut éviter du côté d'Hudson.
En même temps, tu avances 5-6 ans puis je sais là, que tu le dis ça en exemple, mais Kent Hughes a amené Kirby Dank à la porte de l'autonomie complète, encore une fois, joueur autonome avec compensation. Faites la même chose avec New York. T'sais, je vois de mémoire, là, ça me surprendrait bien gros qu'il amène Lane Hudson UFA. Là. D'après moi, c'est peut-être très court terme, contre-pont, mais moi, honnêtement, je vois pas vraiment de scénario dans lequel tu signes pas 8 ans. Surtout que la convention collective va changer l'année prochaine et ce sera plus possible à partir du 15 septembre de signer un aussi long contrat.
Ouais, puis écoute, moi, je vais être franc, je veux dire, le plus vite que les Canadiens sont capables de régler ce dossier-là, le mieux que ça va être pour l'équipe en ce moment. Parce que si ça arrive à l'été prochain, tu vas avoir et Demidov et Lane Hudson disponible pour une prolongation de contrat. Puis ça serait absolument la fin du monde. Parce que après ça va jouer avec les salaires. Si tu signes l'année prochaine, le pourcentage compte pour le cap salarial de l'année prochaine. Ouais. Donc, c'est une différente discussion. C'est pour ça que c'est mieux de se régler maintenant. Pour ce qui est de contre-pont, écoute, Caden Gooley, si je me trompe, a signé un contrat de 6 ans l'année passée, qui a commencé d'ailleurs ce juillet. Donc, ils sont pas nécessairement contre l'idée de négocier même les années, mais je pense pas que ça serait moins de 6 ans. C'est minimum 6 ans.
Ouais, définitivement. Est-ce que tu es surpris, Marco, que on est dans une genre de période d'accalmie point de vue transaction dans la Ligue nationale? Puis on peut reculer de plusieurs semaines. Là. Ça s'est vraiment tranquillisé. Une transaction à la Patrick Laine, comme on a vu l'an passé au mois d'août, ça ne s'est pas produit dans la Ligue cette année. Puis là, ben, le bruit qu'on entend, c'est que il y a des clubs qui s'attendent à ce que des formations se sortent du portrait très rapidement et on soit plus enclin à laisser partir des joueurs plus tôt cette année avant le Thanksgiving américain. Est-ce que tu crois cette possibilité-là?
Non seulement je le crois, je peux confirmer que j'ai reçu cette information-là de certains exécutifs de la Ligue. C'est à quoi on s'attend. Il y a trop de parité en ce moment. Il y a trop de clubs qui croient qu'ils peuvent faire les séries. En fait, si je peux donner un chiffre, je pense qu'il y a 29 clubs sur 32 qui croient vraiment qu'ils peuvent faire les séries cette année.
Ouais.
Ce chiffre-là va tomber assez rapidement avant la fin de l'année, de l'année calendrier de 2025. Puis je pense que c'est là que ça va bouger. Puis l'autre affaire qui aide dans ce contexte-ci, c'est que les années auparavant, les clubs n'avaient pas d'espace sous le cap salarial. Il y avait, si je me trompe, 15 équipes qui utilisaient la liste des blessés à long terme juste pour garder le club en fonction. Cette année, plusieurs clubs avec beaucoup de cap salarial. Et je pense que c'est là vraiment ce qui va aider parce que tu vas arriver en décembre puis tu vas avoir ajouté à ta masse parce que c'est au prorata. Donc, si tu as, comme le Canadien, 4,5 millions de places sous la masse, ça va plus être 6,5 rendu en fin novembre, début décembre. Donc, beaucoup de places pour ajouter.
Ouais.
Même si tu prends en considération le calcul du cap salarial durant les séries, le Canadien pourrait ajouter un bon morceau sans devoir attendre à la dernière minute qui est la date limite des transactions en mars. Donc, le shopping peut se faire beaucoup plus tôt.
Oui, puis je le rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi, le plafond salarial va compter en séries éliminatoires pour 20 joueurs, pour les 20 joueurs en uniforme. C'est donc dire que ce ne sera pas basé sur 23, mais sur 20. Donc même si le salaire, on va chercher un salaire avec le prorata de la masse salariale qui a augmenté l'espace, je ne sais pas si je suis clair, là, mais tu peux aller chercher plus d'argent au fur et à mesure que l'année avance. Ben même si ces salaires-là ne vont pas être les mêmes en raison du prorata en saison régulière versus en série, ben en série, il y aura seulement que 20 joueurs qui vont compter sur la masse. Donc, il y aura moyen quand même de faire un peu de gymnastique pour être en mesure de rentrer tout le monde sous le plafond salarial. Marco, on est à la porte. Là. Écoute, les tests physiques ont commencé. Demain, c'est les scrimmages sur la glace. Qui tu vas surveiller particulièrement au camp du Canadien?
Mais je pense que toutes les yeux vont être fixés sur Kirby Dach. Je pense que tout le monde veut voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, à quel point il est rétabli de sa blessure. Est-ce qu'il va être prêt? Jeff Gorton nous a dit qu'il devrait être prêt pour le premier match de la saison. Reste à voir avec des matchs préparatoires s'il va être capable de suivre la cadence. Donc pour moi, c'est le player X en ce moment. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui va faire en sorte que si le Canadien va être agressif en novembre, c'est parce qu'il n'a pas livré la marchandise. Donc il y a beaucoup qui lui regarde puis qui a besoin de prouver, donc de base lui. Et j'ai vraiment hâte de voir comment Florian Jacquet va pouvoir saisir l'opportunité, parce que si Kirby Dach n'est pas à la hauteur, mais le Canadien vont vouloir garder un centre de plus dans leur effectif au cas où ils ont besoin de mettre quelqu'un. Exemple, le Canadien vont jouer 3 matchs en 4 soirs, si je me trompe, pour débuter la saison. Je ne sais pas si Kirby Dach, si on suit comment le Canadien ont ramené David Reinbacher au jeu, je ne sais pas si Kirby Dach va jouer tous les matchs. Donc, c'est peut-être que tu aurais besoin d'un centre qui est capable d'alterner dans l'alignement. Mm-hmm. Donc, c'est une opportunité pour un gars comme Florian Jacquet qui a très bien démontré ses habiletés physiques, ce que le Canadien manque en ce moment. Donc, c'est un joueur qui pourrait saisir sa chance de cet automne.
Ouais, puis pour les gens qui se posent la question, Florian Jacquet est gaucher. Merci Marco, on t'écoute sur nos ondes, des collaborateurs avec bien des émissions ou sinon dans le podcast Processus avec Anthony Marcotte et Martin Thériault. Salut mon chum.
Salut Marco.
Salut Marco.